Je viens de dire.
De la publicité pour un du Sud.
Et un jour, je suis tombé sur un de ses ouvrages. Et évidemment, ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler l'enseignement selon l'orthodoxie traditionnelle, mais ce dont il témoigne me touche beaucoup. Je sens là-dedans autre chose que des habitudes de la mémoire. Mais des êtres comme ça, c'est... ce sont des êtres qu'il faut côtoyer.
Il se dit, remarquez, il annonce la couleur, il dit qu'il est clown spirituel.
Oui, mais un gourou, c'est un clown spirituel.
C'est-à-dire,
vous avez les gourous qui sont les clowns spirituels et vous avez les clones spirituels. Et vous savez, maintenant... En biologie, dans les manipulations génétiques, on arrive à faire des duplicataires comme ça. Hein, on appelle ça le clonage. Alors vous avez des clones spirituels. Je pense que lui, c'est plutôt un clown spirituel.
Il
est disons que pour ce soir, on a passé le quota de renseignements. Passons à l'enseignement.
Passe son temps à regarder son personnage avec humour. Je vous demande, moi, quelle est la prochaine étape, parce que je suis là-dedans du moment. Et puis, bon, et quoi plus, et quoi d'autre, et j'ai l'impression de... Et je ne vois pas comment aller plus loin, et un peu les illusions sur soi, on se regarde avec... Après, j'en suis là et j'ai l'impression que ça se termine.
Tu as posé la question, quand on regarde le personnage avec humour, et après, Si on regarde le personnage avec humour, il n'y a pas d'après.
C'est suffisant en soi.
Oui, ce qu'il y a après, c'est le rire. Hein? C'est le rire qui éparpille le personnage. Alors, là, le regard est humour. C'est quand Dieu te prête son regard. Sinon, tant que c'est nous qui portons un regard, il manque sérieusement d'humour. Hein? De temps en temps, tu es assez contaminé pour arriver à rire de la situation. Mais c'est parce que tu as été humidifié de quelque chose. Mais le véritable regard d'humour, il ne t'appartient pas. C'est pour ça que je vous conseille de vous faire voir de temps en temps.
Allez vous faire voir.
Faites si un jour on vous demande qu'est-ce que vous venez faire ici.
On peut toujours dire, on va se faire voir.
C'est une démarche qui est très longue, tu sais. Si le chemin était long, la démarche serait courte. Mais comme le chemin est très court,
la démarche est longue.
Il ne faut pas non plus que l'observation du personnage tourne à l'obsession spirituelle. C'est important de le regarder, mais oublie-le aussi un petit peu. Aère-toi. Ça va manquer complètement d'humour de trop le regarder aussi. C'est important de te prendre sur le vif dans certains comportements, dans certains mécanismes habituels qui reviennent comme ça. Bon, c'est important de le mettre en évidence sur le vif. Mais ça ne doit pas tourner à une espèce de... L'important c'est aussi de pouvoir s'aérer et de pouvoir se dire que toute cette vie qui est là te dit quelque chose. Alors, non, tu peux consacrer un certain temps à regarder le personnage, consacre aussi du temps à écouter ce que te dit cette vie, ce que tout ce qui est là te dit. Seulement, pour que ce qui est là te parle au point que tu puisses l'entendre, il faut ne plus séparer ce qui te parle. Ce monde te parle en permanence, cette vie te parle en permanence et elle te dit constamment la même chose. Elle te dit un mot, constamment le même mot. Et pour que toi tu puisses entendre ce mot, il faut que tu laisses la vie tout entière te parler. Tant que tu divises la vie entre ce qui t'intéresse et ce qui ne t'intéresse pas, ce qui va dans le sens de ton projet personnel, ce qui va à l'encontre de ton projet personnel, tant que tu divises la vie, tu ne peux pas entendre ce qu'elle te dit. C'est pour ça qu'il est important au sein de cette vie, en dehors du regard que tu peux porter sur les habitudes du personnage, d'affirmer constamment la nature réelle de tout ce qui est. Même si, après cette affirmation, tu vois en toi la réaction émotionnelle, attraction-répulsion. C'est important, en priorité, d'affirmer la nature réelle de tout ce qui est. Et c'est dans la mesure où tu accordes à tous les événements cette nature de réalité que tu divises de moins en moins le monde. Plus tu vas le sentir intuitivement, moins tu vas diviser le monde. Et à ce moment-là, tu vas entendre. Tu vas entendre ce que le monde te dit, ce que la vie te dit. Mais il faut s'aérer aussi. Plus particulièrement à toi, je vous dis ça. Mets-toi en vacances. Vacances, ça a deux sens pour toi. Vacances.
Comment ne pas m'ennuyer ? Parce que là, je suis tombé en face de ça.
C'est pas tout à fait ça. C'est ce que tu fais qui t'ennuie. C'est pas parce que tu t'ennuies que tu le fais. C'est ce que tu fais qui t'ennuie. C'est pas parce que tu t'ennuies que tu le fais. Comme les gens qui s'ennuient à méditer. Pourquoi chercher le réel? Pourquoi chercher le réel? C'est pas parce qu'il s'ennuie qu'il cherche le réel. C'est parce qu'il cherche le réel qu'il s'ennuie. Essaye pas de le comprendre. On n'est pas vraiment là pour se comprendre.
Non, mais c'est intéressant. Je cherchais pourquoi on s'ennuie justement quand on cherche quelque chose.
Oui.
Et peut-être parce qu'on fait toujours appel à un souvenir, à quelque chose qu'on connaît déjà et qu'on veut le reporter sur une chose qu'on a imaginée. Et comment, je sais pas, ça emmène à la question, comment est-ce que c'est possible justement d'avoir un regard qui fait appel à aucune mémoire? Est-ce qu'il y a une possibilité, je sais pas, avec les sens, avec quelque chose, d'avoir un regard total qui soit pas séparé, il n'y ait pas une chose observée, un observateur et tout le temps qui nous procure autant d'ennui?
Nous n'aurons jamais ce regard total. Hein? Nous sommes ce regard total. Quand justement nous sommes plus habités par l'attente. Pourquoi on s'ennuie? Parce qu'on attend quelque chose qui n'arrive pas. Et qui n'arrivera jamais, et heureusement. C'est pas quelque chose qui va nous arriver. C'est quand on cesse d'être dans cette attente que ça nous arrive, que nous arrivons avec tout ce qui arrive. L'éveil, le processus de réalisation constante, c'est quand on cesse d'être dans l'attente que quelque chose nous arrive. Alors à ce moment-là, la séparation cesse. Et nous arrivons avec tout ce qui arrive. Nous sommes ce qui arrive constamment. Et celui-là n'attend plus et n'est plus dans l'ennui. N'est dans l'ennui que celui qui attend qu'il se passe quelque chose lié à la mémoire, une attente gonflée d'une image de l'événement extraordinaire, l'événement satorique. Là est l'ennui. L'ennui qui est le contraire du contentement. Et le contraire du contentement, c'est l'attente. La tension tendre vers, qui nous empêche de sentir ce qui est là, ce qui arrive. La méditation qui attend que quelque chose arrive empêche de sentir ce qui est en train d'arriver. Et que nous arrivons constamment. C'est pour ça que le chemin est court. Nous sommes sur une case départ en attendant que quelque chose se passe, et en fait nous sommes constamment à l'arrivée. Puisque nous arrivons constamment. Mais dès qu'on postule une case départ ou un chemin à parcourir, on s'empêche d'arriver. Et comme l'arrivée elle est permanente, c'est une course rapide. Hein? Allez, il faut laisser bousculer les choses là.
Pourquoi l'ordinaire serait-il rapide?
En fait, c'est dans un... Vous connaissez ce roman de Richard Bach, Jonathan Livingstone, le goéland. Et c'est ce goéland qui passe son temps, justement, à être de plus en plus rapide. Et vous connaissez tout le processus, il s'éloigne des autres, sa vitesse grandit, et puis un jour il est dans le ciel et il est autour des 300-400 km/h, et puis il y a ces deux magnifiques goélands blancs qui l'encadrent, qui font les mêmes pirouettes que lui. Et puis il se retrouve devant l'ancien des goélands. Et l'ancien des goélands lui demande comme ça, alors, quelle vitesse tu files? Et lui, un peu fier, 400 km/h, je ne sais plus à peu près. Et l'ancien des goélands lui dit, Jonathan, la vitesse absolue, c'est l'omniprésence. C'est à cette rapidité-là que je fais allusion. Quand on arrive tout le temps, c'est l'omniprésence.
Et quand on a la difficulté à choisir ses cases départ, parce qu'il y en a plusieurs devant soi.
Il y en a toujours plusieurs devant. Il n'y en a qu'une seule sur laquelle on se tient.
Oui, d'accord, mais...
Alors, t'occupes pas de celles qui sont devant. T'occupes-toi de celles sur lesquelles tu te tiens. Mais celle-là, tu ne peux pas la voir. Tu peux pas voir la case départ, parce que la vraie case départ, c'est la case arrivée. À un moment donné, tu vas sentir la nécessité de concrétiser ta démarche en tant à la fois que regard que tu portes justement sur ces mécanismes. Chercher la case départ, la bonne, c'est un mécanisme pour pas avancer, ça.
Je ne sais pas lequel prendre. Si j'en prends un plutôt qu'un autre, l'autre me manquera. Et spirituellement, c'est un petit peu la même chose. Il y a plein de choses qui m'intéressent et je ne saurais pas quitter quelque chose en me disant, bon, ben ça ne m'intéresse pas, je pense plutôt dans telle voie plutôt que dans telle autre.
Tu es mariée?
Oui.
Il n'y a pas trop de problèmes? Moi, je ne peux pas répondre à une question comme ça. Aucun des chemins n'a le monopole du réel. Aucun des arguments de la réalité proposée n'a l'exclusivité du réel. Mais toi, tu es une occasion unique. Toi. Alors vis en intimité avec toi-même. T'es ta seule occasion. En quelque sorte, t'es ton occasion toute neuve. Hein? Mais il faut que tu vives en intimité avec toi-même. Et pourquoi on a des problèmes, justement? C'est parce que il ne peut pas y avoir qu'un seul chemin. Il y en aura toujours plusieurs. Ça, c'est notre conditionnement qui veut ça. Et tu te rends compte, la frustration que tu t'infliges de vouloir ne pratiquer qu'un chemin?
Oui, c'est une frustration.
Mais c'est épouvantable, il faut en pratiquer aucun. C'est comme ça que tu te rends malade. C'est de vouloir en pratiquer un seul, mais qu'il y en a plusieurs. Et tant que tu voudras en pratiquer un, il y en aura toujours plusieurs. N'en pratique aucun. Là, tu vas être tranquille. Et laisse-toi apparaître à toi-même. Ton chemin, c'est... c'est ta façon de te tromper avec toi-même. Tu es cela. Laisse-toi grandir. Laisse passer ce qui se passe ici. Laisse-le grandir en toi. Laisse grandir ta véritable envie. Moi, j'ai pas de chemin. C'est pour ça que je peux vous parler. Et vous pouvez être libre avec moi. Mais là, je vais redire la même chose avec d'autres mots. Est-ce que c'est parce qu'il nous manque quelque chose qu'on attend quelque chose, ou est-ce que c'est parce qu'on attend quelque chose qu'il nous manque quelque chose? Là, on ne le voit pas assez profondément, ça. Eh oui, mais ça, il faut le voir profondément. Il faut être conscient de ça, que c'est parce qu'on attend quelque chose qu'il nous manque quelque chose. Et c'est pour ça, si on met l'accent sur le manque en priorité, ça va cautionner tous les chemins et toutes les obligations d'en choisir un seul, le bon et tout machin.
Et quand, ma crainte, c'est, quand j'entends ça, c'est comment ne pas tomber dans n'importe quoi. Oui, je veux dire que... Tu vois ce que je veux dire?
Très bien.
Parce que, effectivement, je peux laisser aller mais n'importe quoi aussi.
C'est pour ça qu'il y a un enseignement qui encadre ça. Évidemment, il n'est pas question de... La façon dont tu en parles, laisser aller, en fait, c'est laisser aller les tendances dépendante d'un chemin. Mais là, on va laisser aller toutes les tendances à la fois, dépendantes de tous les chemins à la fois. Ça, c'est le désordre. Et nous ne connaissons qu'une seule alternative. Ou on laisse débouler sur tous les chemins, et c'est le désordre, ou on contrôle, on canalise sur un ou deux ou trois chemins privilégiés. Et là, on pense qu'on est en ordre. Hein? C'est ça, nous, notre façon habituelle de fonctionner. Et ce qu'on appelle la normose. La normose, c'est être sur un chemin, ou deux ou trois au maximum, mais arriver à bien les équilibrer. Bon. Quand on dit non, pas de chemin, le réflexe du normosé, ça va être d'ouvrir les vannes de tous les chemins à la fois, et d'aller cavaler dans toutes les directions. Mais il y aura toujours un intérêt personnel derrière, qui va cautionner chaque chemin. Bon. C'est pas ça non plus dont il est question. C'est pour ça que le cadre de l'enseignement traditionnel dénonce d'une part le mécanisme du chemin référence. Bon. Mais à côté de ça, en tant que mécanisme du faux, mais à côté de cela, tu dois, toi, avoir cet aspect de l'enseignement qui est l'intimité avec le réel, l'intimité avec le pressentiment du réel qui est en toi, avec l'envie du réel qui est en toi. C'est, là, là, c'est plus un chemin, ça. C'est toi. Et si tu vis vraiment cette intimité-là, et si tu as la chance d'avoir l'écho de cette intimité dans un support de la réalité, dans l'argument du réel, bon, et de pouvoir l'affirmer en toi, là, le fait de vivre cela, de vivre cette intimité, ça, je dirais, c'est le... C'est une forme de santé intérieure, ça. Là, c'est pas n'importe quoi.
La sentir parfois, et puis ça s'estompe, et ne pas trouver le support référence. Même au niveau d'une phrase que tout change constamment, juste comme ça, il n'y a pas encore quelque chose qui me touche viscéralement, que je peux reconnaître et m'appuyer dessus totalement. Et donc je suis dans cette phase où, voilà, d'indécision, de velléité, de oui, je sais ça, mais j'arrive pas à m'y mettre, je suis à côté. Et je peux m'auto-suggestionner tout ça, mais...
Il vaut mieux pas s'auto-suggestionner. Hein? L'éveil, c'est pas la méthode Coué.
Si je trouve ça, j'ai l'impression que ça va marcher dessus.
Ben non. Non, c'est... Là encore, il y a cette forme d'impatience, de vouloir s'approprier quelque chose. La crainte que tu mentionnes est justement le moteur de la main qui veut s'approprier, qui veut détenir. Ces choses-là, je sais... La vie est pudique, elle met longtemps à se déshabiller. Alors, il ne faut pas la regarder trop concupiscent non plus. C'est ce que je veux dire, d'être aéré. On ne peut pas violer. Laisse-le venir, ça t'a été donné. Ça t'a déjà été donné. Oui, parce que le désir que nous connaissons est toujours un désir qui est fixé sur un objet. Et effectivement, il y a toujours un plus possible. Dans le monde de l'attente, dans le monde du désir, celui que nous connaissons, et il y a toujours un plus possible. Ça, c'est le carburant de l'affaire. Et nous sommes, nous, des fonctionnants dans la mentalité du plus. Et nous ne connaissons du désir que la mentalité du plus. Nous ne connaissons de l'attente que la mentalité du plus. L'intimité, c'est l'esprit du plein. On change d'univers. Et l'esprit du plein, c'est quand le désir ne se fixe plus sur quelque chose de plus. Nous allons de plus en plus, comme des petites médailles. Oui. Moins qu'hier et... Ou plus qu'hier et moins que demain, là, l'affaire. On appelle ça l'amour. Bon, ben, nous, on est légués comme ça, on a tous notre petite médaille, là. Hein? Et dans le désir, dans l'attente, dans le spirituel, ça, c'est les fonctionnaires du plus. La démarche, c'est l'esprit du plein. Affirmer le plein que nous sommes. Le désir non fixé. Une lumière dans laquelle il peut y avoir plus de lumière n'est pas notre lumière.
Pourquoi avoir besoin de nommer cet objet ?
C'est un mécanisme qui est lié en partie à la fonction de l'imaginaire, à la fonction associative du néocortex, et qui est lié donc au développement du registre psychologique de l'individu, et qui est tout à fait normal. C'est un mécanisme qui est lié en partie à la fonction de l'imaginaire, à la fonction associative du néocortex, et qui est lié donc au développement du registre psychologique de l'individu, et qui est tout à fait normal à une époque de sa croissance. Parce que lorsque nous entamons notre fonctionnement sur le plan mental, la base même de ce fonctionnement, c'est de nommer. Le mental nomme, désigne, par la même s'approprie et pense maîtriser. Donc il y a une certaine conjuration de l'inconnu en nommant, qui est nécessaire dans un premier temps de notre développement de la conscience, et tout le monde doit passer par là. Mais qui, à un autre moment, devient l'obstacle majeur. Le maître avec qui je vivais avait cette image, il disait, quand la charrette, on était en Inde, quand la charrette passe pour la première fois là où il n'y a pas encore de chemin tracé, c'est difficile. Au bout d'un certain temps, le chemin est tracé, ça devient très facile. Et puis au bout d'un certain temps, la charrette est tellement passée qu'il y a plein d'ornières et c'est à nouveau difficile. Et la fonction du registre psychologique, de nommer, c'est un peu pareil. Il est un temps où nommer est un acte nécessaire et qui va énormément faciliter la vie. Et si on reste sur le plan uniquement symbolique, psychologique, on s'interdit de grandir réellement. On s'enfle en largeur, mais on s'interdit de grandir réellement. Et à ce moment-là, le fait de constamment nommer, ce besoin que l'on éprouve, nous empêche à la fois d'être en intimité avec ce que nous nommons, et surtout, et c'est ça qui est encore beaucoup plus important, nous empêche d'être en intimité avec cela dont on se sert pour nommer. Et c'est cela dont on se sert pour nommer qui est le vivant. Mais justement parce que nous sommes tellement pris par ce processus de nommer, d'une part, nous étouffons ce que nous nommons dans ce que nous utilisons pour l'enfermer, finalement, le mot, la définition. Mais en plus, par là même, nous nous empêchons d'éprouver intimement la nature de cela même dont nous nous servons pour nommer. Et c'est cela qui est le réel. Et quand nous éprouvons cela, c'est le désir qui n'est plus fixé sur un objet, c'est la conscience qui n'est plus enfermée dans ses perceptions, c'est la nature de l'attention qui n'est plus enfermé dans les mots qui nomment les choses. Alors à ce moment-là, ce qu'éveille, nous réalisons la nature même de la conscience. Et à ce moment-là, tout ce que nous voyons, on n'a plus besoin de le nommer. Parce que tout ce que nous voyons s'avère être de la nature de cela même dont on se servait pour le nommer. Donc on vit, tout est conscience. Et on est cela. C'est à la fois ce que nous sommes, notre dynamique, et cela que l'on nommait auparavant. Tout ça, c'est la même chose.
Alors, selon le lieu, le temps où on se trouve, on va faire la concession de continuer de nommer. Mais on n'est plus dupe. Cela qui nomme, cela qui est utilisé pour nommer, et cela qui est nommé, c'est un. Et cela, nous le sommes. Donc c'est très très important de ne pas faire l'impasse sur cette période où nous avons besoin de nommer. D'ailleurs, ça continuera de rester, on continuera d'utiliser les désignations. Et il est important aussi de ne pas tomber dans l'excès que pour entraîner, par exemple, des réflexions du type sémantique général, la carte n'est pas le territoire. Bon. C'est une réalité indéniable. La désignation, le mot, n'est pas la chose. C'est corps et fils, et le chien mord pas. Le mot chien mord pas. Bon. Et le mot Dieu bénit pas. Seulement si on ne prend que cet aspect-là, je dirais ça, c'est un constat purement mental. Et si à partir de ce constat-là, je fais une démarche dite spirituelle de non-nomination, de non-désignation, sous prétexte de laisser venir la nature réelle des choses, j'atrophie un processus en moi. Parce que je n'ai pas mis l'accent sur la dynamique même de ce processus. Je mets l'accent que sur la phase terminale. Effectivement, le mot n'est pas la chose. Mais si, sous prétexte que le mot n'est pas la chose, je stoppe de nommer, je vais rentrer dans un processus dualiste de choses non nommées. Alors je vais être dans un monde duel non nommé.
Par la matière.
Voilà. Et je vais être de la même façon prisonnier. Seulement, au lieu que ma prison ait un nom, ma prison n'aura plus de nom. Mais je serai prisonnier parce que j'aurais mis l'accent sur l'objet, là encore. Et je vivrai avec des objets non nommés, et là j'entraîne une confusion. J'entraîne un désordre. Ce qui est important, c'est d'éveiller à cela même dont je me sers pour nommer.
Mais justement, est-ce qu'on peut mettre un espace? Alors, est-ce qu'on peut se tenir au lieu de la fracture, justement, au lieu de la séparation?
On n'a pas besoin, parce que cet espace-là, il n'existe pas. On n'a pas besoin de se retirer du monde que l'on nomme, en général, pour éprouver cela même que l'on utilise pour nommer. On quitte le monde quand on veut éprouver quelque chose qui dépasse le monde. Mais quand on veut ressentir ce par quoi le monde est, on n'a pas besoin de quitter le monde, au contraire, il faut être dedans. C'est pour ça que c'est un chemin qui est tellement...
Pas quitter, en fait, je ne voulais pas dire ça.
Je veux dire, pour prendre un recul.
Bon, tout ça, c'est du domaine du temps. Le désir, par exemple, tout à l'heure, on nous parlait du désir, ça m'intéressait beaucoup, parce que c'est justement le temps psychologique qui intervient dans un phénomène et qui fait... Et tu parlais justement de cette chose-là qui nommait, qui était le réel, et qu'à partir du moment où il y avait la chose nommée, celui qui nommait, etc., on n'était plus dans le réel. Et est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de mettre un espace et d'avoir justement ce regard intérieur? Je reviens toujours à la même chose. Ce regard qui n'est pas, qui fait pas appel au temps psychologique, qui ne fait pas appel à la mémoire, et qui nous permet...
La première chose, c'est de constater ça. Mais... Là, on voit toujours ces deux axes de l'enseignement. Je constate le faux. Le faux, en l'occurrence, bon, c'est de vivre dans des désignations. Ça, ce serait le premier faux qu'on va dénoncer. Le deuxième faux, qui est beaucoup plus subtil, c'est de dénoncer un processus par lequel j'arrêterai de nommer, qui est en fait le même processus que nommer. Disons que je suis aussi peu conscient du processus qui me sert à nommer quand j'arrête de nommer. Parce que j'utilise ce même processus pour ne plus nommer. Mais en l'occurrence, je suis prisonnier de la non-nomination comme j'étais prisonnier de la nomination avant. Donc là, il y a une deuxième dénonciation du faux qui participe du premier axe de l'enseignement. Quand j'ai pu dénoncer ça, ensuite, je vais coller plus intimement avec le processus même. Et là, on pourrait éventuellement dénoncer encore celui qui voudrait être témoin, être antérieur au processus. Là, il est important d'être dans l'intimité de ce processus lui-même. De s'éveiller au fait que ce processus, c'est nous. Et cela peut être aidé quand on va nous offrir éventuellement la matérialisation même de ce processus. Quand un instructeur transmet, il ne transmet pas un objet nommé par le divin, il transmet le processus de désignation lui-même. Il est contagieux au niveau de ce processus-là lui-même. Et lorsque nous pratiquons l'affirmation du vrai, ce n'est pas l'affirmation d'un objet nommé divinement, c'est l'affirmation du processus même par lequel on peut nommer. Tu sens ça? Bon, ça, ça demande une intimité au cours de laquelle on va rentrer en contact intuitivement avec ce processus. C'est plus quelque chose qu'on peut concevoir, qu'on peut percevoir ou s'approprier mentalement. Ce ne sera jamais sur ce plan-là que ça va se passer. Alors, quand éventuellement on est assez attentif dans cette question, par exemple, il y a assez d'attention pour justement faire en sorte que l'attention ne s'enferme pas dans la réponse, mais que l'attention soit plus en plus consciente du processus de l'attention même. Et ça, c'est toute la subtilité de ce chemin-là. C'est pour ça que ça demande de nous une obligation de conscience, une exigence absolue. Il ne peut pas y avoir de complaisance. Plus on rentre dans l'intimité de ce processus, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça serait tellement facile si on pouvait se l'approprier. Ça serait un chemin très facile. Il suffirait de se l'approprier. C'est excessivement difficile parce que cela que l'on cherche à s'approprier, c'est la nature même de cela par quoi on s'approprie. La main ne peut pas s'approprier le dynamisme qui permet à la main de s'approprier. Et c'est pour ça que ça peut être qu'intuitif, quand d'un seul coup, c'est ce dynamisme-là, on sait qu'on est ce dynamisme-là. Et on sait que c'est dans ce dynamisme-là qu'est la conscience, qu'est la plénitude de vie. Et c'est bête comme chou. C'est d'une simplicité, c'est plus que simple. Et c'est pour ça que ça nous échappe. Et pourtant, c'est là, vous êtes ça, constamment. Le fait que vous m'écoutiez est cela. Que je vous parle, c'est cela. Que vous m'écoutiez, c'est cela. Si vous m'écoutez pour saisir ce que je dis, vous loupez le truc. Vous êtes là pour m'écouter, pour ne pas comprendre. Eh oui, c'est ça. C'est comme ça que vous allez pouvoir rire de votre incompréhension joyeuse. Oui, oui. Et moi, je ne vous parle pas pour vous expliquer. C'est pour ça que je m'en fous. Je vous parle pour vous parler, pour que vous m'écoutiez, pour ne pas comprendre.
Ça marche.
Oui. It will take some time. Et c'est simple. Il y a des moments où vous le sentirez plus, parce qu'il y a des moments où il y a la bénédiction qui est là, et effectivement, vous n'avez pas envie de me comprendre. Et à ce moment-là, c'est bien. Vous êtes ça.
Comment parler du devenir?
Devenir.
Mais en fait, je crois que si on a toute cette difficulté à adopter cette démarche tout à l'heure, c'est parce qu'elle est quand même pleine de risques. En fait, le cas, nous la vivons comme étant pleine de risques. Car lâcher d'un coup
c'est quand il y a en nous cette intuition de notre parenté avec la vie qui naît. Quand cette parenté est évidente en soi. Bon, moi je l'ai senti avec un support et parce qu'on est ici dans le cadre de l'enseignement et c'est pas le cadre de conférences ou de choses comme ça. Je peux vous parler de l'aspect intime dans lequel c'est arrivé. Pour moi, c'est la relation avec la mère divine. Avec la mère divine. Mais c'est devenu... moi, je n'étais pas du tout... comment on appelle ça bigot. C'est pas mon truc, ça. C'était pas mon truc. Et j'étais plutôt... bon, pour moi, il y avait la relation avec le gourou, et puis qui était le témoin du réel, point final. Et donc, j'avais pas du tout de préjugés favorables ou défavorables, plutôt allergiques même, à cause d'une éducation religieuse qui avait mal tourné. Mais toujours est-il que, au moment où ce sentiment, par l'intuition, ce sentiment de parenté avec le vivant est apparu dans ma conscience, j'ai eu vraiment le sentiment, ça a été absolu, que cette vie m'aimait. Et quand je l'ai senti de plus en plus dans tout mon être que cette vie m'aimait, d'abord, tout s'est dilaté en moi. Avant, tout était contracté à cause de la peur, à cause du sentiment de séparation. Et là, j'avais de plus en plus le sentiment que cette vie m'aimait. Et à un tel point qu'effectivement, j'ai compris, parce que je l'ai senti de tout mon être, comme si j'étais dans les bras de la mère divine. Que la vie, c'était comme la mère divine, j'étais dans les bras de la mère divine. Ce n'était pas du tout une régression fétale, machin comme ça. C'était une conscience de... C'est difficile de parler ça, mais... C'était dans les bras de la mère divine. Alors je comprenais les mystiques, je comprenais des êtres comme Ramakrishna ou d'autres qui parlaient de leur relation à la mère divine. C'est un... l'Indien Baba. C'est une humeur, un sentiment, un mode d'être où on sent véritablement que cette vie nous aime, et cette vie nous aime, que c'est la mère divine. Et quand on sent ça à ce moment-là, c'est plus un risque de se laisser aller. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Alors... alors ça l'a...
Hein? Quel moment, enfin, est-ce que tu peux nous dire s'il y a des circonstances particulières qui t'auraient amené à sentir ce... rapport à la mère divine, sentir en toi que la vie t'aime.
À un moment donné, j'en ai eu marre de marcher sur des chemins qui n'étaient pas moi. J'étais comme la madame. Il y avait des tas de chemins, et puis peut-être un seul à un moment donné que je pensais qu'il était le bon. Et pour les petits copains autour, j'étais un yogi avancé, enfin pour certains. Je mangeais pas de viande, j'allais pas au cinéma. Je baisais en cachette. Et je me mettais jamais en colère, à l'extérieur. Alors, vraiment, j'étais quelqu'un de bien. Habillé toujours en blanc. Et c'est important. Et bref, le bon yogi. Et puis à un moment donné, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre parce que je trouvais... Non, ce n'est plus possible, quoi. Et je me souviens avoir dit à ce moment-là, la personne qui vit avec moi, je lui ai dit à ce moment-là, je fais un coup de poker. Je vais redevenir quelqu'un d'ordinaire. Et pour moi, c'était le plus gros coup de poker de ma vie. Parce que...
C'est là que tu as plein de risques.
Ok. Mais je ne pouvais plus faire autrement.
D'accord.
C'était devenir ordinaire. Parce que pour tout le monde, j'étais un yogi, j'étais proche de certains instructeurs, on me considérait bien dans le milieu. Et... j'avais eu quelques promotions déjà. J'avais des chances. Oui. Et puis évidemment, j'étais bien content. J'avais mes ouailles qui me badaient et tout machin. Et puis à un moment donné, ça a été trop. Alors je savais à ce moment-là, je prenais le risque de ne plus être alors la personne considérée que j'étais jusqu'alors. Donc effectivement, je prenais le risque qu'on ne m'aime plus, qu'on ne m'apprécie plus, qu'on ne me reconnaisse plus. que l'image que j'avais âprement construite, d'un seul coup, je m'en débarrassais moi-même, ça ne servait plus à rien. Mais tu sais, quand on balade une image, on le sait tous, on est tous en train de traîner une image qui pèse une tonne. Et c'est ça notre ennui. C'est d'œuvrer constamment à l'élaboration de cette fichue image de soi. Hein? Et c'est... La vraie renonciation, c'est tellement simple, c'est de renoncer au poids qui nous ennuie la vie. Et cette image de soi qu'on construit, mais pour ça il faut qu'on entende le témoignage, bon, comme le témoignage que je vous propose, de quelqu'un qui l'a vécu et qui vous dit, effectivement, là c'est du yoga pour maigrir un grand coup. On perd 300 kilos d'un coup. Ça c'est le vrai régime là. Hein? Et quand... Disons, c'est ça qui a motivé, moi, ce coup de poker où, effectivement, c'est plus de l'argent qu'on met sur le tapis, c'est toute son image de soi, là, c'est terminé. Et à ce moment-là, il n'y a plus de chemin. On n'a plus aucun chemin. Parce que tous les chemins justifiaient le personnage qu'on avait construit dessus. Et là, il n'y a plus de chemin, il n'y a plus de personnage. Mais on reste vacant. On reste disponible. On bazarde toute l'affaire, mais on reste ouvert. Et parce qu'on reste ouvert à ce moment-là, on sent, ouvert, ordinaire, on sent pour la première fois ce qu'on n'a jamais senti jusqu'à là. On sent que c'est vivant, que tout ça c'est vivant. Et parce qu'on était préoccupé par des chemins, par des stratégies personnelles, par des objectifs personnels, ça, on ne l'avait jamais senti parce qu'on l'avait toujours utilisé pour ses fins personnelles. On utilisait le processus pour atteindre quelque chose. Mais on n'avait jamais senti le processus, parce qu'on était polarisé par ce pourquoi on l'utilisait. Et là c'est, mais ça va très vite. 3 jours, ça a pris pour moi, à partir de ce moment-là. 3 jours, pendant lesquels ça n'arrêtait pas. Ça n'arrêtait pas de grandir, de cette vie qui disait, ben enfin, quasiment c'est ça, enfin. Et on se dit, mais comment c'était là tout le temps, c'était abondant là tout le temps, et puis... Et tout se dilate, le lieu de la peur habituelle de l'homme, il est dans les tripes, là, dans le ventre, de l'intérieur, c'est comme une immense fleur là, qui s'ouvre, qui se dilate complètement, et puis ça, c'est vivant. Et là, on sent que ça nous aime, ce truc qu'on n'avait jamais senti auparavant, la vie, on sent que ça nous aime. Effectivement, il y a un moment donné où on ne peut pas faire autrement que de vouloir être ordinaire, simple, sans tout ce truc qu'on a traîné.
Est-ce que c'est pas la réaction, justement, vouloir être ordinaire, est-ce que c'est pas la réaction au personnage? Quitter le personnage, est-ce que c'est pas la même chose que d'être dans le personnage?
Si ça avait été un processus intellectuel, oui. Si ça avait été un processus intellectuel,
oui. Est-ce que c'est une réaction, voilà, c'est la question.
Je te le dis a posteriori, si tu veux.
D'accord.
Parce que si ça n'avait été qu'une réaction, ça n'aurait pas entraîné ce que ça a entraîné, vraisemblablement. Hein? Mais, tu sais, bon, je mets l'accent là sur le côté se débarrasser de...
Oui.
Bon, mais il y a certainement aussi par... par tout ce qui a précédé ça. Je me souviens quand... un jour, on m'avait posé la question, mais alors, c'était bon, juste dans ces moments-là, on me disait, mais alors, si c'était à refaire, comment tu t'y prendrais? C'est-à-dire de dire, quelles erreurs éviterais-tu pour que ça aille plus vite, en quelque sorte? Et effectivement, je dis, mais si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose. Hein? Parce que c'est ce que j'ai fait qui a permis que cela soit. Donc, je ne vais pas du tout condamner ce qui a été fait. Et je pense qu'au travers de ce qui a été fait, il y a eu aussi la partie qui a permis le développement de cette intuition qui a soutenu la décision. C'est parce qu'il y avait ce pressentiment aussi derrière que cette décision a été possible. Cette décision ne m'appartenait pas uniquement en tant que réaction à l'appris, réaction...
Ça avait fait.
Oui, ça ne pouvait pas être autrement. Et je crois qu'il y a... Il y a tout un processus de maturation. On ne peut pas décider intellectuellement que ça se fasse. C'est pourquoi dans l'enseignement, il y a la dénonciation des mécanismes du faux, mais il y a nourrir la conscience de cette réalité, du vrai, du support de la réalité. Et il y a une chose qui est, là encore, bon, je parle de cette façon-là parce que pour moi, nous nous situons ici dans le cadre de l'enseignement. Il y a une chose que vous devez savoir et dont tous les êtres d'éveil ont témoigné. Cela est possible aussi parce qu'il y a la grâce. Et même si je ne fais pas souvent allusion à cet aspect-là, c'est un aspect fondamental et essentiel du chemin. Il y a une grâce divine. En fait, ce processus est la grâce divine. Mais derrière cette grâce divine, il n'y a pas de volonté d'aller vers tel ou tel. On n'est pas appelé par la grâce divine. Il n'y a pas les élus, les choisis et les autres. On prend conscience de la grâce divine quand on cesse de se situer dans les appelés ou les non-appelés, quand on est de plus en plus conscient que l'on est soi-même l'appelant. La grâce divine ne nous touche pas. La grâce divine s'avère être nous lorsque nous cessons de vouloir être touchés par elle. Lorsque nous-mêmes nous le sommes. Mais si je peux vous dire, on n'invoque jamais en vain la grâce divine.
Pourquoi la nommer ?
Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous en parler. Parce que on l'appelle tous. Et quelquefois d'appeler, d'invoquer cette grâce, ça permet de ça permet une forme de simplicité, d'humilité naturelle, l'abolition d'un certain orgueil, d'une. Je parlerai des droits d'auteur. On fait qu'à nous des droits d'auteur de la semaine. Hein?
J'aime pas ce que tu dis là. Attends, j'ai aimé, je t'ai suivi,
oui.
J'ai bu du petit lait dans tout ce que tu as dit avant. Autant quand tu verses sur ce côté de la grâce divine, je suis d'accord. Parce que j'ai l'impression que tu as introduit une espèce de nécessité mystique à la chose. Et je suis pas d'accord.
Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Je ne le retiens pas pour l'instant.
Qu'est-ce qu'elle a dit?
Tu sais, ça c'est pas l'important.
Mais ce n'est pas un paysage.
Je suis pas sûr que c'est pas l'important. Même j'ai certains sentiments, enfin une certaine tendance à penser que ça a de l'importance. Et je pense que c'est un. Je crois que l'attente de cette grâce divine, justement.
Invoquer la grâce n'est pas l'attendre.
Ah, tu sais, pour beaucoup, je ne sais pas s'ils font bien la séparation entre l'un et l'autre, n'est pas. Et de toute façon, parler de grâce divine, c'est forcément induire une notion d'attente, moi je crois. Je ne vois pas comment on peut dire à quelqu'un qu'il existe quelque chose quelque part, n'est pas.
Non, grâce non, à justement, il n'existe pas quelque chose quelque part, nous sommes cela. Bon. Et la notion d'attente existe quand, par fierté et par orgueil, je décide de faire un chemin qui va m'amener quelque part. Là est la notion d'attente. Quand on parle d'une grâce dont nous sommes la nature même, et que l'éveil, c'est justement de s'éveiller au fait même que nous sommes cette grâce, de faire référence à cette grâce, c'est abolir le monde de l'attente. Mais tu ne peux pas en être conscient maintenant. Moi, je dis, il y a beaucoup moins d'attente dans la référence à la grâce que dans la référence à un travail qui va vers quelque chose. Enfin, c'est pas important. C'est pas important parce que... C'est pour ça, mais j'aime bien en parler aussi parce que c'est comme ça. Mais...
Vous savez, moi, je trouve que monsieur a raison.
Oui.
C'est que quand on nomme un objet, il y a trop de gens qui ont essayé de prendre le pouvoir sur d'autres personnes
oui.
au nom de cet objet.
Exact.
Oui. Oui. Oui, mais alors ça voudrait dire qu'il y a des êtres qui s'approprieraient le monopole de décisionnel de cette grâce. Hein? Mais justement, le propre de cette grâce, c'est la liberté, c'est la gratuité. Comment pourrait-on avoir un monopole ou un pouvoir de décision quelconque là-dessus?
Mais l'humilité, ce serait peut-être plutôt d'avouer qu'on ne sait pas, plus on découvre les choses dans l'inconnu. Parce que c'est ce qu'on constate à chaque instant du devenir de la vie. C'est qu'on ne sait pas, on ne sait rien.
Ça, je suis tout à fait d'accord. Ça, complètement. Mais la nature même de cette grâce, c'est le non-savoir dont tu parles.
D'accord.
Oui, mais en plus, Yvan, tu emploies un mot qui est lourd de sens à travers...
Le mot grâce ?
Oui, c'est...